acteur.
Jessica Vial.
Deux ponts se sont effondrés cette le sud-ouest de la Russie, près de la frontière ukrainienne. Le premier ouvrage s'est écroulé dans la région de Bryansk et a causé le déraillement d'un train. Au moins 7 personnes ont été tuées et 70 autres blessées. Un second pont s'est effondré dans la région voisine de Koursk au moment où une locomotive y passait. Les autorités russes n'ont à ce stade fait aucun lien avec le conflit en Ukraine et Kiev n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. Des tirs israéliens ont fait au moins 10 morts et plus de 100 blessés aujourd'hui dans le sud de la bande de Gaza. Ils visaient un centre américain de distribution d'aide alimentaire selon la défense civile de l'enclave palestinienne. Hier, le Hamas a remis au médiateur ses conditions pour une trêve dans la région, mais sa réponse a été jugée inacceptable par les États-Unis à l'origine de la proposition. Ces échanges interviennent après les menaces du ministre israélien de la Défense. Il avait sommé le Hamas d'accepter la proposition américaine de trêve et de libération des otages sous peine d'être anéantis. Les bureaux de vote ont ouvert en Pologne pour le second tour de l'élection présidentielle. Le scrutin oppose le maire de Varsovie, Rafał Trzaskowski, centriste et pro-européen, à Karol Nawrocki, soutenu par l'opposition nationaliste. Le président polonais dispose d'un droit de veto sur les lois. Une victoire du candidat conservateur pourrait donc mener à des blocages de la coalition centriste au pouvoir. La vallée du Lechental respire un peu. La situation est dans l'ensemble maîtrisée au niveau du lac qui s'est créé à Blatten et autour du barrage de Ferden en aval. Il est toutefois encore trop tôt pour lever l'alerte, avertit la commune valaisanne. Le ministre de la Défense, Martin Pfister, s'est lui rendu sur place pour une rencontre privée avec la population. Les Suisses et les Suisses consomment de plus en plus d'œufs et la production locale peine à suivre la demande. Le Conseil fédéral a décidé d'autoriser davantage d'importations à partir de ce dimanche 1er juin. La Suisse pourra donc importer jusqu'à 158 millions d'œufs à des droits de douane réduits d'ici la fin de l'année. Le Paris Saint-Germain a remporté sa première Ligue des Champions, c'était hier soir à Munich. Le PSG de Luis Enrique a écrasé l'Inter de Milan 5-0. Cette victoire a donné lieu à des scènes de liesse à Paris et dans d'autres villes de France. À Grenoble, 4 personnes d'une même famille ont été blessées, dont 2 grièvement, après qu'une voiture a heurté la foule lors des célébrations de la victoire du PSG. Temps assez ensoleillé aujourd'hui, des cumulus se formeront dès la mi-journée, suivis d'averses ou d'orages qui pourront s'accompagner localement de fortes rafales de vent ou de grêle. En montagne, vent modéré de sud-ouest qui se renforcera en soirée. Température 28 degrés au maximum, demain lundi un peu plus frais, maximum 22 degrés et un ciel souvent très nuageux.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
La météo avec VZ, le conseiller financier pour votre retraite et vos placements, vzch.com.
Envie de plonger dans les coulisses de l'info? Le samedi 7 juin, la Gourtzellen de Bienne devient le cœur battant du tout premier festival de journalisme en Suisse romande, le Prestival. Journalistes, correspondants à l'étranger, podcasteurs, rencontrez celles et ceux qui font l'actualité. Toutes les informations sur prestival.ch. Vous rêvez de vous glisser dans la peau d'une ou d'un journaliste? Grâce à l'atelier interview pour changer le regard sur le handicap, organisé sur place par la RTS, c'est possible. Détails et inscriptions sur avecvous.rts.ch.
Côté jardin, Pauline Saiterley.
Avec une équipe de choc ce matin, nous avons Nicolas Feiss, Cédric Baudin pour les jardiniers en haut, standard téléphonique au 058 134 0134. Saskia Muskens, Anne Parvis qui sont là pour les vétérinaires, Lou Sicovier, notre assistante, et Sophia Muller qui gère la technique d'une main de maître. Et nous sommes ensemble jusqu'à 9h, notamment pour parler communication animale. Dans quelques minutes, on aura également François Turion qui viendra pour nous parler du clown et de l'anémone, un couple parfait, vous verrez jusqu'au bout de l'histoire. Et puis on termine ensemble, Saskia, ce qu'on a commencé juste avant les infos, à savoir parler de votre découverte, de cette, c'est une révélation, cette communication animale tout à coup qui débarque dans votre cabinet sans crier gare et qui vous lance sur cette question et sur la compréhension de ce qui se passe.
Oui, donc c'est vraiment quelque chose qui est ouvert à tout le monde et avec lequel, enfin, c'est un peu pour moi, c'est un exercice de, c'est une gymnastique. Plus vous pratiquez, plus vous plus c'est facile.
Donc vous êtes en train de nous dire qu'on n'a pas un don donné de je ne sais où, un cadeau qui arrive, on déballe, pouf, j'ai ce don de communication animale.
Les enfants l'ont de manière complètement innée et spontanée, et puis on perd après cette spontanéité, malheureusement. À nous de retrouver. Mais c'est vrai que peut-être que chez nous, les vétérinaires, le fait qu'on ne puisse pas communiquer verbalement avec nos patients, qu'on doive passer par le propriétaire, ça nous amène à beaucoup observer les animaux. Ça va faire sourire mon mari que j'arrive à ne pas voir quand je le croise, et si je lui dis que j'observe, il va rire. Mais oui, on observe différemment les animaux. Il y a plein de trucs que je vois pas, mais les animaux, je les observe. Il y a déjà toute une partie pour moi qui passe par ce biais-là. On sent si un animal, c'est comme un enfant, on sent si un animal le matin, il est pas dans son assiette, s'il a pas été mangé, s'il change ses habitudes au cabinet. On les connaît aussi, nos patients, tout d'un coup, un qui est plus méfiant, qui a pas envie qu'on le touche, alors que d'habitude, c'est un qui vient volontiers faire des câlins. On sait qu'il y a quelque chose qui va pas. Et je pense qu'il y a un espèce de gloubi-boulga avec toutes ces informations entre ce qu'on voit, ce qu'on ressent, ce qu'on entend, les informations qui arrivent en communication intuitive comme ça, et du coup ça nous permet d'être qui on est.
Mais c'est vrai, et j'imagine aussi que quand ça arrive, pour les premières fois où on a des images, où on perçoit des messages, se faire confiance à soi-même et les entendre réellement, c'est aussi une sacrée étape.
C'est très compliqué, et puis j'ai appris à mes dépens que les propriétaires sont pas toujours prêts à entendre. Parfois, c'est des messages pour eux et ils sont pas toujours prêts à entendre ce que l'animal veut leur dire. Et c'est parfois super compliqué à gérer. Une fois, j'ai dû hospitaliser un petit chat qui avait une insuffisance rénale, mais pas quelque chose de grave, hein, des valeurs très élevées, mais pas monstrueusement élevées. Et puis, en passant devant le box de ce chat que j'avais mis sous perfusion, il m'a grondé en me disant « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? J'ai juste envie de partir. J'ai fini ma mission. » Puis, j'ai été me faire un café, j'ai pas tenu compte de ce qu'il me disait en me disant « Ok, alors là, il faut que j'aille dormir parce que vraiment, ça va plus. » Et j'ai rendu le chat à sa propriétaire le soir en lui expliquant un truc en disant « Écoutez, c'est pas grave, mais il faut qu'on surveille ses reins. » Et là, ça va mieux. Je l'ai perfusé toute la journée, donc ça va aller. Et le lendemain matin, à 8h, quand je suis arrivée, elle était devant la porte du cabinet avec son chat à moitié mort. Il n'y avait aucune raison pour qu'il lâche comme ça. Il me l'avait dit, le chat. J'ai pas voulu entendre, j'ai pas voulu admettre. Et une autre fois, ça c'était drôle par contre.
Je me permets quand même, mais du coup ça pose la question, s'il arrive à nouveau dans un état critique, est-ce qu'on le soigne? Si on a entendu, est-ce que le vétérinaire est tenu par un...
C'est là que je vous dis que ça me pose des problèmes et que je suis contente qu'il ne me parle pas toujours aussi franchement.
Vous vouliez raconter
c'est vraiment des cas de conscience.
La situation d'un chien qui est arrivé avec des symptômes d'apathie.
Oui, ça aussi c'est un cas qui était intéressant. C'est un chien qui est arrivé, il n'était pas bien, anorexique, apathique, donc pas envie de manger, et puis fatigué. Un grand caniche sympa, et puis d'habitude plein d'entrain, quoi. Et puis prise de sang parfaite, examen clinique parfait, je trouve rien. Donc je le renvoie à la maison en disant à la dame, écoutez, on observe et puis on se tient au courant. Le week-end, elle part consulter chez un confrère en urgence parce que le chien mangeait toujours pas, ça allait pas. Le confrère refait une prise de sang, elle était encore mieux que la mienne. Donc le lundi, j'appelle cette cliente en lui disant comment va le chien aujourd'hui? Et puis elle me dit, mais ça va pas. Puis je dis, bon, ok, est-ce qu'il y a eu un événement à la maison? Puis elle me dit, oui, il y a eu un événement. Bon, j'y étais pas. Vous allez penser que je m'en foutiste, mais pas du tout. On s'est fait cambrioler. Enfin, on s'est fait. Ma maison a été cambriolée. La personne qui s'occupait des chiens s'est retrouvée séquestrée avec les chiens dans une pièce. Mais enfin, les cambrioleurs ont été très, n'ont pas été agressifs. Ils ont été très prévenants pour les animaux. Ils les ont enfermés dans une pièce, mais ça n'a pas été violent. Et puis je dis, mais ça n'a pas été violent, mais comment est-ce que le chien vit ça? Et en fait, le chien, il était traumatisé par cette situation. Et le fait qu'on en parle avec la propriétaire, qu'elle prenne conscience du truc, et ce que ça, la gardienne du chien avait vécu en son absence. On s'est rendu compte que la gardienne du chien aussi, qui disait que tout allait très très bien, était complètement secouée, qu'elle a dû se faire suivre par quelqu'un après pour digérer cette histoire. Et dès qu'on a mis le doigt sur la chose et sur le trauma que les deux avaient vécu, eh ben, le chien est allé mieux, il a recommencé à manger et puis à vivre normalement.
C'était dit, c'est sorti.
Ouais. Exactement. Et il avait pu prévenir que la personne qui le gardait était en souffrance aussi.
Vous parlez face à France Perria, qui est notre invitée ce matin, parce que vous êtes, alors on le dit, communicatrice animale ou interprète animale plus. D'ailleurs, la différence entre les deux, l'interprétation et la communication, c'est kiff-kiff, c'est un synonyme.
Oui. C'est simplement, j'aime mieux utiliser le terme d'interprète animalier parce qu'en fait, on va traduire ce qu'on ressent, on va mettre des mots sur ce qu'on ressent. Donc, c'est comme si on traduit une langue, en fait, quoi.
C'est donner aussi l'importance de la personne qui reçoit les messages, disons, comme aussi peut-être influente dans... Enfin, vous transcrivez pas toujours exactement tout ce que vous recevez, ou vous avez une part de...
Alors, il y a une part d'interprétation, c'est-à-dire... comment dire ça? Je sais pas si par exemple, là, en rentrant dans le bureau, moi je me cache derrière la porte, et puis au moment où vous passez, je sors derrière la porte comme ça, vous allez reculer parce que vous avez peur. Mais il y a un moment, enfin, c'est une fraction de seconde, même pas, où votre cerveau vous donne l'information que c'est de la peur qu'il faut reculer, qu'il y a un danger. En fait, vous allez interpréter que c'est de la peur, et c'est pas la joie de me voir sortir de derrière la porte. Donc, je peux pas l'expliquer mieux que ça, en fait, c'est qu'on ressent, mais du coup, avec cette conscience-là, dans l'exemple de la porte, ben, c'est très rapide, on réfléchit pas. Tandis que là, ben, l'animal me fait ressentir, ben, par exemple, une peur. Et puis, ben, je vais demander, pourquoi il a peur, par rapport à quoi. Et ça peut venir, ben, soit sous forme de mots spontanément, ou alors des images, en fait, où il va montrer quelque chose qui lui fait peur.
Je me réjouis de passer cette matinée avec vous pour parler communication animale. Il y a certainement des gens un peu sceptiques qui auront peut-être envie de discuter avec vous au téléphone, Saskia, ou même peut-être France. Donc je vais vous laisser retourner au standard un petit moment pour répondre aux questions des auditeurs et des auditrices au 058 134 0134. Il y aura surtout et certainement beaucoup de gens qui auront envie peut-être de confronter leur ressenti avec votre regard. Et c'est vrai que je vous remercie aussi du courage que c'est de parler de ça à la radio, parce que c'est un sujet qui n'est pas encore tout à fait bien compris, bien théorisé, tout à fait scientifiquement circonscrit. Et donc, c'est pas si simple d'évoquer la communication animale, n'est-ce pas?
C'est en fait, ouais.
Même dans une profession qui pratique
Même dans une profession, et j'ai encore 30 secondes. Mm-hmm. Pour une dernière anecdote, mon collègue qui n'était pas du tout branché communication intuitive est allé un jour chercher un cheval au parc, s'en est occupé, le remet au parc en lui disant que c'était vraiment un chic type parce qu'il l'avait suivi, parce qu'il avait été docile, qu'il s'était bien laissé attraper et tout. Le lendemain, j'étais à côté de lui, le téléphone sonne, la propriétaire du cheval appelle en disant « Vous êtes passé voir mon cheval, mais vous m'avez pas dit ce que je devais faire avec comme soin ». Mon collègue lui répond « Bah si, tout est écrit sur le petit bout de papier que je vous ai laissé sur la porte du box ». « Ah mais j'ai pas vu le bout de papier ». Alors comment savez-vous que je suis passée? Parce que mon cheval me l'a dit. Et là, je vois mon collègue qui se décompose. Parce que en même temps qu'il avait expliqué au cheval qu'il était un chic type, il lui avait dit « Toi, je t'aime bien, mais ta propriétaire, qu'est-ce qu'elle me gonfle ?» Et je le vois se décomposer. Et puis il dit « Mais votre cheval, il vous a parlé de moi ?»« Oui, oui, il m'a raconté, il m'a dit que vous lui aviez dit qu'il était un chic type. » Et rien d'autre ?« Non, rien d'autre. Pourquoi ? Il aurait dû ?» Non, c'est vraiment un chic type. Et ça, c'est de nouveau une magnifique démonstration de la communication animale.
Et c'est sur ces mots qu'on passe en musique avec ce titre de l'anomalie. Je suis Mali. Et on vous retrouve dans quelques minutes après la séquence de François Turian.
Allongé seul sur mon lit, j'ai le mal du pays. J'ai le cœur qui s'entête quand j'ai l'anomalie. C'est comme un mal de tête. Une mélancolie qui me dit je suis Mali, je suis Mali, je suis Mali, je suis Mali. Allongé seul sur toucher ta magie. Noir ou blanche, qu'importe, le mélange est inouï, vis d'ici. Je suis Mali,
puissance, Mali, puissance.
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 Balema.
Bonjour François Turian.
Bonjour Pauline, bonjour tout le monde.
Ce matin, on va parler d'une relation qu'on connaît tous depuis qu'on est enfant. C'est l'histoire de l'anémone de mer et du poisson clown, le seul poisson qui se fait protéger par l'anémone, qui pour les autres est plutôt irritante, voire même carrément toxique.
Oui, exactement. C'est une relation assez incroyable. Donc, c'est une symbiose, hein. Donc, il faut rappeler que la symbiose, c'est quand deux êtres vivants s'associent sans plus pouvoir ensuite se passer l'un de l'autre. Donc, c'est une coévolution qui prend évidemment beaucoup de temps, des milliers d'années à se développer. Et ces symbioses, il y en a de nombreux exemples dans le règne vivant. Et l'histoire entre le poisson clown et l'anémone de mer, c'est une des plus jolies qui existent. L'anémone, il faut rappeler que c'est pas une fleur, hein, c'est bien un animal qui est apparenté, fait partie de l'embranchement des cnidaires, donc c'est apparenté, si vous voulez, aux coraux et aux méduses, donc des animaux qui sont bien des animaux et qui ont des petites tentacules pourvues de cellules urticantes. Et chez l'anémone, eh bien symbiose est multiple, puisque non seulement il y a une symbiose avec le poisson clown, mais il y a aussi à l'intérieur des tentacules de l'anémone des petites algues unicellulaires qui vont permettre de métaboliser l'énergie lumineuse et puis rendre cette énergie exploitable pour les anémones. L'anémone a un régime mixte, elle utilise cette énergie finalement lumineuse, mais elle complète son régime en mangeant des petits organismes marins.
Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur cette relation et sur cette symbiose entre l'anémone de mer et le poisson clown ?
Alors, déjà rappeler que le poisson clown, c'est les némos, hein. Il y a une trentaine d'espèces qui s'abritent des prédateurs en choisissant de vivre aux côtés et souvent à l'intérieur des tentacules des anémones. Et on sait que tout petit, il y a cette habituation. Donc, ils ont une immunité contre le venin des anémones. Il y a certains poissons clowns qui vont sélectionner une espèce d'anémone. Il y en a d'autres qui peuvent se retrouver dans plusieurs espèces d'anémones. C'est en tout une 10-12 espèces d'anémones sur le millier d'espèces connues qui peuvent abriter des poissons clowns. Ils vont manger les parasites et les débris naturels de l'anémone. Et donc aussi, maintenant, on le sait depuis cette étude, ils vont nourrir les anémones de mer.
Sérieux ?
Oui, cette étude parue dans Scientific Reports a été établie par une équipe de l'université d'Osaka, donc des chercheurs japonais qui ont étudié le poisson clown de Clark qui se trouve dans les récifs dans le sud du Japon. Et les plongeurs, en fait, se sont mis à nourrir ces poissons clowns en leur amenant des aliments de différentes tailles et de différentes natures. Et le résultat est assez stupéfiant parce que les poissons clowns ont choisi pour eux les aliments de petite taille et puis les algues vertes. Et puis, par contre, ils ont apporté à l'anémone les plus gros morceaux tout en dédaignant d'apporter ce qui leur convenait pas, c'est-à-dire des restes d'éponge. Et donc, il y a une véritable nutrition qui est faite par les poissons clowns qui vont alimenter de manière tout à fait directe les anémones. Et fantastique, ça va permettre aussi, et les chercheurs ont pu le démontrer, une meilleure croissance de l'anémone de mer. Et donc, il y a une véritable plus-value aussi à cette symbiose qui devient de plus en plus perfectionnée au fur et à mesure qu'on l'étudie.
Donc le poisson clown, c'est un peu le jardinier de la mer qui amène comme ça de l'engrais et des aliments à sa belle fleur qui ne l'en est pas une, comme vous nous le disiez tout à l'heure.
Exactement, et c'est une très belle histoire.
Merci beaucoup.
Bon dimanche, au revoir.
Vos questions par mail, côtéjardin@rts.ch.
Et on va parler de robustesse en milieu urbain. Le projet collaboratif Mirage Urbain a réuni plusieurs entreprises conscientes des enjeux écologiques que revêt notre avenir. Mirage Urbain a œuvré à la végétalisation d'une zone industrielle en testant des méthodes en conditions réelles avec beaucoup de pragmatisme. Le sol, l'eau, la végétation, la lumière, tout a été pensé pour favoriser l'installation de la nature et pour partager l'expérience de ce chantier, de ce travail-là. Là en particulier, un après-midi de conférence a été organisé pour montrer l'importance de la nature autour de nous et encourager le public à passer à l'action. Cette conférence, elle a lieu le 11 juin à Denelloy avec une table ronde et la conférence de Marc-André Sellos, fameux pédologue français. Et on reçoit ce matin par téléphone Sandrine Tolivia. Bonjour.
Bonjour Pauline, bonjour tout le monde.
Vous êtes directrice Deltel, SA, co-organisatrice de cette conférence qui donc se déroule le 11 juin prochain à 13h à Denelloy dans le canton de Vaud. Racontez-nous un petit peu cette mise en route de ce projet Mirage Urbain, en quoi ça a consisté exactement, ce que vous avez fait et pourquoi cette envie aussi de créer une conférence et pour partager l'expérience que vous avez vécue et puis les savoir également que vous avez pu réunir dans le cadre de ce travail.
Oui, alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de la nature en ville. Enfin, vous êtes en tout cas, vous en parlez sur vos ondes. Et il y a plein de gens qui font plein d'actions pour que les choses changent. Et puis, moi, j'avais l'occasion de construire un bâtiment en zone industrielle pour mon entreprise. Et puis, je me suis rendu compte que les zones industrielles, elles sont très, très, très pauvres en termes de nature. C'est vraiment des zones assez mortes. Et puis, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de tester la robustesse urbaine aussi dans ces zones industrielles. Et puis, on s'est mis à plusieurs pour réfléchir pour comment faire, comment utiliser un sol mort, comment le rendre vivant, quelles espèces amener dans une zone industrielle pour qu'à la fois, elle ne gêne pas l'activité, et puis pour que la nature s'y retrouve. Et aujourd'hui, pour faire un petit lien avec ce qui était dit précédemment, pour moi, c'est un bonheur quand j'arrive le matin sur le site et que j'entends. Et là, c'est le sonneur à ventre jaune, donc il y a un amphibien qui est en voie de disparition et qui est venu coloniser les thons et les noues. C'est absolument génial aussi pour nous. On y retrouve vraiment du plaisir, quoi. C'est top.
C'est vrai que Sandrine, on parle souvent de biodiversité, il faut faire pour la biodiversité, mais en fait on le fait aussi évidemment pour nous, pour pouvoir garder ce lien et puis se sentir bien dans nos environnements de travail.
Exactement. Quand on peut observer les martinets qui viennent boire ou se laver dans les temps, enfin, tout le monde s'arrête et regarde, et puis ah ouais, regarde, c'est trop joli, et puis ça apporte, honnêtement, ça apporte vraiment, vraiment quelque chose aux équipes qui travaillent.
C'est super intéressant aussi parce que souvent, ce genre de démarches sont initiées par des associations de protection de la nature, par des gens qui sont déjà impliqués dans le milieu de l'écologie. Et quand ça vient des entrepreneurs, c'est aussi vraiment remarquable.
Alors, on va pas se mentir, toute l'équipe qui avons œuvré à la réalisation de cette zone, on est tous, il y a un bureau de biologiste, parce qu'environnement, il y a TerraSol, une start-up qui travaille dans le sol, il y a Plantons Utiles qui travaille justement pour l'efficience énergétique des bâtiments. On est tous impliqués dans la nature, on est tous passionnés et on y croit tous. Mais effectivement, là, on décloisonne les mondes. Et puis, le fait d'organiser cet après-midi de conférence qui est ouverte à tous, c'est vraiment pour essayer de montrer que c'est possible, on peut travailler dans une zone industrielle, rester pratique, pragmatique, mais en intégrant d'autres dimensions. Et puis, on veut vraiment décloisonner les mondes pour que tout le monde se rende compte. Et c'est à partir de plein de petites initiatives, la vôtre sur votre antenne, la nôtre, celle de plein de gens en Suisse et dans le monde, qu'on va pouvoir faire changer les choses, mais petit à petit.
Et pour participer à cette conférence, donc c'est toute une journée avec une table ronde, plein d'invités et aussi une conférence, on peut se rendre sur votre site ltel-sa.ch. Il y a une billetterie, évidemment on a mis en lien sur la page d'rts.ch/côté jardin. Racontez-nous juste encore un petit peu le grand invité qui va venir en conférence à 16h45, c'est Marc-André Sellos. Qui est-il ?
Alors Marc-André Sellos est un pédologue très très connu, et moi je n'ai jamais encore eu la chance de l'entendre, et tous les gens qui l'ont déjà entendu m'ont vraiment dit: écoute Sandrine, c'est un vulgarisateur incroyable, on comprend tout et on voit la vie et les choses et le sol différemment après l'avoir écouté.
Pédologue, donc spécialiste du sol.
Exactement, et puis il enseigne en France à l'université à Paris, et visiblement c'est vraiment vraiment quelqu'un à écouter, et je me réjouis vraiment de l'entendre la semaine prochaine.
Donc une conférence, robustesse et changement de paradigme, le sol, un partenaire connecté, tout ça dans le cadre de cette grande journée à Denelois. Ce sera le 11 juin à partir de 13h, et toutes les informations seront sur notre site. On vous remercie infiniment d'être passé sur les ondes pour nous parler de cette journée, et puis surtout pour l'organiser.
Merci beaucoup Pauline, une toute belle journée à
bientôt,
tout le monde.
Merci bien.
Au revoir.
You won't find him anywhere. He's gone for good. Lost for everybody. I hope to hear from you. I hope one day some inspired by you. We'd be better people. I think I see him everywhere. Even gone. I feel him all around. Un chauffeur dormir debout, te regarder dans ces vagues, je sais, je m'ennuie de vous.
Et si je dois rester le même au-delà de tous ces mots, est-ce que tu voudrais encore de moi?
Pardonne-moi, pardonne-nous de cet aveu qui rend fou. Un voyage jusque dans tes bras.
Et si je dois rester la même au-delà de tous ces mots, est-ce que tu voudrais encore de moi?
Pardonne-moi,
pardonne-nous de cet aveu qui rend fou. Un voyage jusque dans tes bras.
Ah,
comme un soleil sous la mer, je cherche en moi ces voix qui s'endorment.
Cet aveu qui rend fou, un voyage jusque dans tes bras.
Have to see me as I am, wanna understand the pain, and I just want to believe in you.
Pardonne-moi,
pardonne-nous
de cet aveu
qui rend fou, un long voyage jusque dans tes bras.
Allons voyager jusque dans tes bras.
have to see me as I am. Wanna embrace all the pain. I might just want to believe in you. Forgive me and forgive us, just to count all of us, all the journey to come back to you.
Cats and Trees en duo avec Calogero, c'était Jimmy à 8h30 sur RTS Première dans Côté Jardin où on parle ce matin de communication animale avec notre invité France Péria qui communique, qui interprète. Et vous avez un site internet animalcontact.ch. Si on s'y intéresse et qu'on veut vous rencontrer, discuter avec vous, est-ce que vous faites des cours aussi pour les gens comme moi, par exemple, qui aimeraient peut-être développer ce potentiel?
Oui, alors je donne des cours régulièrement. Pour l'instant, j'ai pas de nouvelle date encore, ça reprend l'automne. D'accord. Je laisse passer l'été.
Mais il y a aussi beaucoup de gens qui nous écoutent et qui sont peut-être curieux, qui se disent « mais en fait, j'ai l'intuition que ça pourrait marcher, que je pourrais un petit peu peut-être entrer en résonance, en connexion avec mon animal, mais je ne sais pas comment m'y prendre. » Qu'est-ce qu'il faut ? Faut se mettre dans un endroit calme, baisser la lumière, mettre de l'encens, des bougies. Non, oui, comment on fait ?
Alors c'est seulement au moment où on arrive à l'éviter de 10 cm au-dessus du sol, qu'on peut commencer à communiquer.
Je croyais, parce que Saskia a dit tout à l'heure que c'était pas du tout un truc élitiste, que tout le monde pouvait le faire. Là, tout de suite, ça me paraît un peu moins abordable.
Non, non, alors c'est vraiment, c'est abordable à tous, en fait. Il n'y a pas de choses à faire, à préparer. Il faut juste être très centré. Je dirais, une des premières clés en communication animale, c'est d'être vraiment en pleine présence. C'est-à-dire, quand on veut communiquer avec l'animal, il faut être à 100% avec lui. Si on veut communiquer avec lui, puis qu'on pense aux courses qu'on a à faire, ça va être difficile de vraiment l'écouter. Déjà que ça passe que par le ressenti. Donc, il faut être vraiment à 100% avec l'animal. Ça, c'est un des premiers points. Et puis après, je dirais, il y a, dans le sens de donner des informations à l'animal, où là, c'est important de vraiment d'utiliser des formulations positives. J'insiste sur le thème de formulation positive qui n'a rien à voir avec le fait d'être optimiste. Les gens souvent confondent. Et ce que je veux dire par là, c'est de se centrer sur ce qu'on veut et ce qui est. Donc, je sais pas, on part en vacances, on dit à son chat, je pars en vacances pendant 2 semaines. Et pendant ce temps, il y a Juliette qui viendra s'occuper de toi. Et dès que je rentre, on reprend le cours de notre vie. Et là, c'est clair pour le chat. Par exemple.
Donc d'éviter les négations. Et ça, c'est assez marrant parce que aussi dans l'éducation des enfants, souvent on dit « Ah mais aux enfants, faut leur dire ce qu'on veut et pas ce qu'on veut pas tout le temps » parce qu'en fait, ils ont pas forcément... ils ont a priori envie de nous faire plaisir, envie de faire juste. Donc si on leur demande clairement, positivement, ce qu'on veut qu'ils fassent, c'est plus simple que n'avoir de cesse de leur dire « Fais pas ci, fais pas ça ». C'est la même chose avec les animaux.
C'est tout pareil. Je compare beaucoup les animaux aux enfants en bas âge, simplement parce que c'est cette pureté de compréhension et de communication. Et c'est vrai que c'est le problème avec les négations, c'est en fonction des images qu'on a, ce qu'on a dans la tête. Donc, je vais rester sur le monde animal, mais c'est vraiment la même chose pour les enfants. Si on a un chat, qu'on habite près d'une route et puis on a peur et qu'on veut dire au chat ne traverse pas la route, pensez aux images que vous avez dans la tête. En fait, vous voyez le chat en train de courir sur la route et c'est ça que vous l'envoyez comme info. Donc, c'est plutôt de lui dire, reste de ce côté-là de la route. Au moins, ça c'est clair. On voit le chat qui reste. Et c'est vraiment, comme pour les gamins, leur dire, il faut écouter, il faut regarder si vraiment la voie est libre. Tu peux traverser avec prudence.
Est-ce que vous avez reçu, Anne Parvis, des téléphones à propos de communication animale ce matin et des questions peut-être ?
Oui, alors beaucoup de gens qui remercient pour ce thème et qui avaient des petites anecdotes, soit parce qu'eux-mêmes entrent en communication avec leur animal à certains moments, ou ont fait l'expérience avec des interprètes animalières ou des communicatrices et ont trouvé que ça aidait beaucoup à résoudre certains problèmes, en particulier je dirais de comportement, de choses comme ça, ou de savoir ce que l'animal voulait, pourquoi est-ce qu'il avait changé de comportement, moins qu'est-ce qui se passait. Et donc, c'est des choses plutôt positives, quoi. Des gens vraiment qui ont fait des bonnes expériences et qui le recommandent et qui, après, restent avec cette personne parce qu'ils ont confiance et ils ont vu que ça fonctionnait. Donc, ils ont quelqu'un d'attitré qui leur correspond, quoi.
On parle de communication animale, c'est un peu tabou. Il reste encore une sorte de voile, comme ça, un petit peu de soupçon derrière cette expérience, ce terme, cette pratique. Par contre, comportementalisme, là, par contre, ça, c'est OK. Il y a une formation, on observe les gestes, les mouvements, c'est beaucoup plus pragmatique. Mais finalement, on se rend compte que ça se mélange énormément.
Oui, alors certainement, parce qu'il y a des choses qui arrivent chez un animal où le comportementaliste a peut-être certaines explications, propose certaines thérapies, ça marche ou ça marche pas. Mais il y a beaucoup de gens qui se tournent aussi spontanément vers une communicatrice animale et puis qui essaient de trouver d'autres pistes.
Vous dites au féminin.
Oui, parce que je ne sais pas s'il y a des communicateurs animaux. Moi, je connais que des femmes, j'entends parler toujours de femmes, je ne sais pas.
Une explication, France Péria.
Je pense juste, il y a beaucoup de choses, mais en gros, je dirais, c'est aussi parce que les filles, on leur permet d'avoir des sentiments, on leur autorise d'avoir des émotions, de ressentir et tout ça, alors que les garçons, il y a encore cette éducation où sois un homme, tu vas pas pleurer comme une fille et tout ça, et du coup, ils vont se barrer eux-mêmes en fait. C'est tout bête, hein, mais il y a beaucoup ça, et je pense que c'est de là que ça vient, et ce côté très intuitif. On parle beaucoup aussi, vous savez, de l'instinct maternel, par exemple. Et moi, je dis toujours que ce qui m'a ramenée vers la communication animale, c'est de devenir maman. C'est ma fille qui a commencé à me remettre sur le chemin de la communication animale, c'est-à-dire de la communication intuitive, de la télépathie. Mais quelque chose comme tout le monde, j'ai envie de dire.
Si on va sur votre site internet France Péria, on voit que vous avez expérimenté avec différents animaux, poissons, mammifères. Et je me demandais s'il y avait des animaux qui étaient des particulièrement bons communicateurs avec lesquels vous avez... Parce que vous avez aussi travaillé dans des zoos, notamment ici en Suisse romande. On vous appelle pour venir communiquer avec des animaux qui auraient des problèmes.
Je pense que c'est plutôt au niveau de l'individu que c'est plus ou moins facile et pas au niveau de l'espèce. Parce que chez les chiens, il y a des chiens qui seront peut-être moins faciles avec qui communiquer et d'autres très faciles. Et on retrouvera la même chose chez l'éléphant, chez la souris, chez le chat ou le chameau.
Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à cette émission ce matin. Il y aurait encore beaucoup à dire. Hein. Je pense qu'on a effleuré un peu effectivement cette thématique. Mais si on veut creuser le sujet, si monsieur, madame, tout le monde a envie de creuser le sujet, ce serait quoi le bon réflexe ?
Je dirais de prendre déjà un premier contact avec un ou une communicatrice animalière, mais effectivement c'est très féminin.
Plutôt une.
Mais si vous en trouvez un, faites aussi avec un, il sera certainement très bien.
Et est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut faire attention dans le sens où on entend aussi beaucoup parler d'arnaques ou de situations qui sont un peu compliquées avec des gens qui perçoivent, qui voilà. Est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a, je sais pas, une étiquette ou quelque chose où on pourrait avoir plus confiance en l'un ou l'une des communicatrices ou communicateurs. Il y a peut-être, c'est pas vraiment un métier protégé.
Ouais, je dirais, c'est déjà d'écouter, du coup, son instinct, son propre instinct. Si dans le contact, ça parle pas, enfin voilà, on n'est pas à l'aise avec la personne, et puis ça paraît complètement fou. Des fois, il y a des trucs fous qui sortent avec les animaux, mais ça paraît complètement à l'ouest. Des fois, je trouve que c'est un peu trop. Certaines communications peuvent être un peu perchées, et on oublie en fait que quand on communique avec un animal, c'est un être qui a quand même un corps physique et qui a avec des besoins physiques et qu'il faut aussi tenir compte de ça. Et des fois, on n'est que dans le lien d'âme en fait, et c'est
dans un aspect peut-être plus spirituel.
C'est ça, et c'est un peu réducteur, je trouve, pour l'animal. C'est comme si nous, on parlait toujours des humains que par rapport à notre choix d'incarnation, et puis et qu'on oublie que finalement, on est des êtres de chair et d'os en fait, qui ont besoin de boire et de manger, enfin des choses très bêtes quoi, et d'aller aux toilettes quoi. Enfin, je sais pas, vous voyez. Donc c'est aussi de ramener les choses un peu plus terre à terre, avec il y a le besoin physique de l'animal et spirituel, et d'écouter en fait toutes ces parties-là. Mais pour moi, le meilleur moyen, c'est d'écouter son instinct, et si ça nous parle pas, on regarde plus loin, et puis c'est tout.
Vous questionnez, nous répondons.
Vous répondez, Nicolas Faïs, Cédric Baudin. Il y a des questions qui sont arrivées par téléphone tout au long de cette matinée. Ça va, vous n'avez pas été trop sous l'eau, tous les
deux ?
Non,
ça va. Des questions, je dirais, comme souvent, très intéressantes et diverses, variées. Donc, je parlerai justement d'un sujet que je trouvais assez intéressant, peut-être dans le tour de table après.
Mais on va commencer avec une question qui nous a été envoyée par courrier à vous, Nicolas Feiss. Vous vouliez en parler, c'est la question pivoine. C'est Roland qui nous a écrit à propos de ces pivoines. Et il nous dit, le plan de pivoine est en place depuis 4 ans. Il a fleuri la première année, puis plus de fleurs. J'ai mis du compost la deuxième année et après de l'engrais pour fleurs. Il est à 700 mètres d'altitude. Il y a du soleil de 11h à 19h. Enfin voilà, on a plein d'infos tout à fait précises. Et bah voilà, elle se demande comment ça se fait, pourquoi plus de fleurs à ces pivoines.
Cette plante, il me semble qu'elle est plantée un peu dans un sol peut-être un peu trop pauvre, vous voyez, et puis pas assez profond. La pivoine a besoin d'un sol où elle peut bien s'enraciner avec beaucoup de matière organique dedans, et là, elle va se développer. Très bien, elle va refaire les fleurs l'année suivante parce que la floraison se fabrique toujours l'année avant, les boutons se forment l'année avant, et pour ça il faut que la plante soit nourrie comme il faut, soit arrosée comme il faut et tout ça. Donc cette pivoine, vous allez l'arracher au mois d'août, on peut arracher ce genre de plante et la replanter et refaire, on peut dire replanter au même endroit, mais de faire un trou assez profond, moi je dirais 40-50 cm, et le remplir. On peut prendre la terre qu'on sort du trou et la mélanger à 50% de terreau et de compost. Et puis je rajoute toujours un peu de fumier composté dans ce mélange, quelques poignées de fumier composté, et puis après on replante cette pivoine dans ce mélange, en l'arrosant bien pour tasser la terre tout autour, et puis elle aura pas de fleurs l'année prochaine puisqu'elle doit refaire ses boutons, et là elle va certainement fleurir peut-être dans 2 ans, mais la pivoine poussera à nouveau bien. C'est une plante qui est très belle, mais qui est quand même assez exigeante. Et puis, elle n'aime pas les sols qui sont du béton. Donc, elle veut avoir la place. Et puis, il faut que ce soit un terrain bien drainé, pas qu'il y ait de l'humidité qui reste autour de la plante.
Magnifique plante qu'est la pivoine, mais exigeante aussi. On espère en tout cas que notre auditeur pourra faire tout ça pour avoir de nouvelles belles fleurs l'année prochaine. On est aussi sur des fleurs avec vous, Cédric Baudin, avec Gérard qui nous écrit à propos de son camélia en pot. Hein, alors il a changé de place et ça n'a pas passé. Pourquoi ? Il est mort.
Alors c'est pas évident de répondre à cette question parce que c'est vrai qu'on a très très peu d'indications. Il a juste dit qu'il l'avait déplacé et puis qu'en gros le camélia avait pas survie. Donc je vais juste, c'est ça que j'ai répondu en fait à Gérard, juste un petit peu les fondamentaux hein, pour les camélias un petit peu au niveau de la situation, de l'endroit où on peut les mettre. C'est vrai que ça demande quand même un endroit qui est partiellement ensoleillé. Le camélia supporte très bien l'ombre, la mi-ombre. Par contre, d'être en plein cagnard comme on dit chez nous, c'est pas idéal. Et ça peut brûler les feuilles et le faire crever. Attention à l'eau stagnante, c'est une plante qui déteste avoir les pieds dans l'eau, même s'il aime l'eau, parce que c'est une plante qui pousse plutôt dans de la terre de bruyère, ces milieux un petit peu acides, donc tout le temps humide, mais pas les pieds dans l'eau. Donc s'il est en pot, vu qu'il l'a déplacé, on suppose qu'il est en pot, c'est possible qu'il le mette même dans la question, mais ce serait bien qu'il regarde s'il y a un trou, en fait, sous le pot, pour que l'eau puisse s'évacuer. Ou alors faire un système de drainage avec des petits graviers, des petites choses comme ça, quand il le rempotera. C'est une plante qui aime être empotée aussi tous les 2-3 ans, environ 5 cm.
Bon là, il est mort, hein, donc
a priori, ça sera pour le futur,
pour
disons,
le
justement.
Pour le prochain, il faudra faire attention à ça,
et
un bon drainage.
Et puis le vent aussi, ne pas les exposer dans un endroit où il y a trop de vent. Le camélia n'aime pas ce genre de situation. Voilà, je dirais dans les choses basiques à faire attention la prochaine fois quand il en reprendra un.
Pour son prochain camélia,
exactement.
Gérard est prévenu. Messieurs, je vous propose qu'on écoute une chanson du groupe Jurassien Carousel et puis ensuite on se retrouve tous ensemble pour le tour de table.
Mmh. temps s'arrêtera? Est-ce que le monde soufflera? Quand tout s'envole, je reste là, je crois que face au vent, je n'ai pas d'autre choix. Je n'attends rien, j'entends des voix qui parfois m'encombrent la tête. Des mots que je retiens comme un poème que je répète. Si j'ai froid quand je me lève, que le matin est déjà loin, j'attends demain ou la relève. Je rêve que le temps s'arrêtera, que le monde soufflera. Quand tout s'envole, je reste là, je crois que face au vent, je n'ai pas d'autre choix. Est-ce que le temps s'arrêtera? Est-ce que le monde soufflera? Quand tout s'envole, je reste là, je crois que face au vent, je n'ai pas d'autre choix. Je serre les poings, je ferme les yeux, je n'y vois rien, mais j'entends mieux. La vie autour, ça me rassure un peu. Je préfère les films en noir et blanc, la vérité au faux semblant, même si c'est caché et que ça casse au moins sa vie dedans. Il y a comme un léger décalage entre les noms et les visages. J'oublie qu'on peut tourner la page, dommage. Mais j'oublie pas les paysages, ni le parfum de l'orage. Y a-t-il un remède au cœur qui se crève? J'en rêve. Est-ce que le temps s'arrêtera? Est-ce que le monde soufflera? Quand tout s'envole, je reste là, je crois. Face au vent, je n'ai pas d'autre choix. Est-ce que le temps s'arrêtera? Est-ce que le monde soufflera? Quand tout s'envole, je reste là, je crois que face au vent, je n'ai pas d'autre choix.
Je rêve, Carousel, dans cette émission Côté Jardin à 8h47. Et on a autour de la table Nicolas Feiss, Cédric Baudin pour les jardiniers, Anne Parvis et Saskia Muskens pour les vétérinaires, et puis notre invité France Péria qui est toujours avec nous. Et on commence par vous, Nicolas. Je vous demandais, est-ce que vous parlez, enfin, pendant la chanson de Carousel, je vous demandais, est-ce que vous parlez aux plantes? Et vous m'avez dit non, mais aux animaux.
Aux plantes, on peut parler aussi.
Oui.
Ça, c'est vrai. Et puis, surtout quand on a des rosiers, des beaux rosiers, on peut lui dire « t'es vraiment magnifique », non?
Bah oui, bien sûr. Oui. Mais enfin, on le fait tous, en fait, c'est vrai, hein, à nos plantes vertes.
Aux rosiers ou toutes ces plantes qui ont de belles fleurs, des orchidées, par exemple, on peut parler comme à une femme. C'est intéressant. Et puis, ça vous fait du bien à vous, parce que la plante... par son parfum ou par son aspect, répond à ça. D'une façon, quoi.
Vous êtes apiculteur, Nicolas Feiss, oui. Et on dit que les abeilles ont aussi entre elles un mode de communication, peut-être télépathique. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe et qui est beaucoup étudié aussi par les scientifiques. Est-ce que vous leur parlez à vos abeilles?
Eh bien, la première chose que je fais quand je m'approche du rucher, je frappe à la porte. Voilà, j'arrive. Et puis après, quand j'ouvre la ruche, je leur dis bonjour. Bonjour mes abeilles, comment ça va et tout. Et puis, bon, on leur donne un petit coup de fumée pour qu'elles savent que le patron est là. Et puis, mais après, elles se calment et puis elles sont toutes calmes. Et pendant toute la visite d'un rucher, on cause. Parce qu'on voit, il y a du miel ici. Eh ben dis donc, vous avez bien bossé. Il y a déjà du miel. Et puis, après, quand on voit la reine, on lui dit, « Eh, ma belle, tu galopes encore ?» Parce que souvent, la reine, quand, c'est difficile à la voir parce qu'elle se cache. Dès qu'on ouvre, elle est furtive, elle se cache. Alors quand on l'a trouvée, elle essaie de se cacher toujours. Donc, mais si on cause un petit peu avec la reine, et puis on peut même la caresser un petit peu des doigts, elle pique pas la reine. Alors c'est intéressant. Et puis on se fait pas piquer, on se fait moins piquer. Déjà d'aller dans la ruche, moi en général je vais à main nue. Puisque là, on sent bien les abeilles. On écrase beaucoup moins d'abeilles quand on va à main nue. Parce que si on en écrase, ma foi, elles vous piquent, elles viennent agressives. Alors, de travailler à main nue et puis de...
D'être dans le même présent aussi.
Pendant la visite, on cause un petit peu. Elles sont tranquilles. Elles sont pas excitées.
J'en profite pour me tourner vers Saskia Muskens. Vous avez eu un téléphone qui pourrait peut-être entrer un petit peu en résonance avec ce que nous dit Nicolas. C'est une dame qui a peur des chiens qui vous a appelé.
Oui, et qui demandait si par la communication intuitive, elle aurait pu communiquer aux chiens qui venaient en face d'elle sa peur. Et je pense qu'effectivement, c'est une excellente idée. Juste d'apprendre à reconnaître sa peur. Et puis, quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait? On se tend, on se met dans une position que l'animal il va interpréter comme, il sait pas, mais comme quelque chose de potentiellement dangereux. En plus, on émet de l'adrénaline. L'animal va aussi pas savoir comment interpréter ça. Et je pense que si elle arrive à exprimer sa peur, ça va juste lui permettre de peut-être baisser ses épaules, de respirer, de se décontracter et du coup d'envoyer un autre message physique. En plus que non-verbal, à l'animal.
Alors là, on est sur de la communication physique, parce qu'il y a l'aspect positionnel, de se mettre dans une position peut-être plus tranquille, de ne pas dégager des phéromones qui pourraient indiquer une forme d'agressivité.
Mais si vous mêlez à ça la communication non-verbale, là, c'est le double effet qui
mais
se coule.
C'est pour ça que je me dis, c'est fou, on en revient toujours un peu à rationaliser sur des aspects très biologiques, alors que là, on parle justement d'aspects peut-être télépathiques, enfin, ça passe par autre chose qu'on ne connaît pas. Et c'est là où, justement, on est dans quelque chose de très irrationnel, en tout cas au jour d'aujourd'hui, sur ces communications. C'est comme sur la notion de communication à distance, quand on peut communiquer, mais sur la base de photos. C'est souvent, d'ailleurs, France Péria, des choses que proposent les communicatrices animales. Et là, ça devient très difficile pour les êtres humains de comprendre et d'accepter que ça existe.
Ouais, pour moi, le plus simple, en fait, c'est de comparer ça avec un appel téléphonique. Donc d'avoir la photo de l'animal avec son nom, son âge, c'est comme avoir le bon numéro de téléphone pour appeler. Et ça me paraît aussi simple que ça. Mmh. Et si on garde l'idée du téléphone, il y a une centaine d'années, si on avait parlé de l'histoire du téléphone, on nous aurait ri au nez, quoi, en disant mais bien sûr, depuis ici, on va pouvoir parler à quelqu'un en Chine. Ben voyons. Mmh. Ben c'est la même chose en fait. C'est juste d'accepter que c'est quelque chose qui est là. Alors le téléphone, c'est un appareil physique. Je suis d'accord. Mais là, avec la communication à distance, c'est effectivement de se mettre en lien, et on parlait de l'empathie tout à l'heure, c'est ça, c'est de l'empathie. La télépathie, en fait, c'est la distance, et pathie, le sentiment. Donc c'est des sentiments à distance qu'on reçoit et qu'on envoie, ça va dans les deux sens.
Anne Parvis,
oui,
qu'avez-vous eu au téléphone comme anecdote, comme sujet que vous aimeriez nous exposer pendant ce temps?
Alors j'en ai eu plusieurs, mais j'en ai une qui est arrivée à un ami il y a peu de temps, qui a une petite chaîne bulldog français absolument adorable qui s'appelle Bou. Et c'est un homme, donc les hommes peuvent aussi communiquer. Arrive, hein. On en parlait tout à l'heure. Et il a fait l'expérience tout à fait par hasard d'être dans sa chambre tout en haut dans la maison. Il y a un avant-toit, la chienne était dans le jardin, elle pouvait absolument pas le voir et il l'a appelée silencieusement. Elle a immédiatement tourné la tête dans sa direction. Puis il s'est dit bon, elle a entendu un bruit et ça. Il a recommencé un peu plus tard exactement la même chose. Il s'est dit mais c'est fou ça. Et ça l'a beaucoup troublé et il a recommencé il y a quelques jours. Son père était là, il lui a dit écoute, il faut que je te montre quelque chose parce que je deviens fou. Et ils ont fait l'expérience et ça a de nouveau marché absolument, alors que la chaîne ne peut pas l'entendre. Il est au deuxième étage, c'est fermé et ça fonctionne. Et il l'appelle simplement intérieurement, quoi. Et c'est quelque chose qui l'a énormément troublé. Et je crois que quand on fait cette expérience, c'est toute simple, hein, celle-ci, mais si on fait ce genre d'expérience, c'est le début de quelque chose qu'on découvre. Et c'est très troublant, effectivement. Mais je crois que une fois on a fait ce genre d'expérience, ça ouvre un monde assez incroyable dont on peut-être profiter de temps en temps et expérimenter.
France Péria.
J'ai envie de dire, j'aime à dire que le moment où je suis revenue à cette communication consciente, j'ai ouvert les portes du monde de Narnia, pour ceux qui ont la rêve, quoi.
Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont ouvrir les portes aujourd'hui. Moi, je me vois déjà tester sur mon chat. Mais on verra.
Il faut pas avoir trop d'attentes.
Parce que j'en ai beaucoup là.
Comme ça, parce qu'après on est prêt à ça quelque part. Ça ouvre quelque chose.
La nature comprend beaucoup de choses, n'est-ce pas, Cédric Baudin?
Ah oui, tout à fait. Et je vais revenir sur ce que disait Nicolas juste avant par rapport au fait de parler aux plantes. C'est vrai que c'est hyper intéressant. On sait que certaines plantes, d'ailleurs, sont très sensibles au style de musique qu'on pourrait mettre dans une pièce. J'avais fait une carte blanche il y a quelques années en arrière qui parlait un petit peu de ça, sur les plantes qui aiment la musique classique, d'autres plutôt le rock, enfin voilà. Et bah tout est lié en fait par rapport au son de la voix aussi, c'est toutes ces résonances sonores qu'on peut retrouver et que les plantes sont... Bah, elles captent ça en fait, comme le fait de dépolluer on va dire une pièce ou avoir d'autres vertus comme ça, c'est vrai que c'est des êtres vivants malgré tout et qui captent énormément de choses. Ouais.
Et oui, des scientifiques se sont penchés hein, sur la musique qui fait effectivement pousser plus les plantes. Il y a certaines musiques dont les vibrations aident effectivement à la pousse des plantes. Ouais. Et ça a été prouvé, voilà, observé par des vrais scientifiques il y a quelques années en arrière. Mais on est vraiment à ça, hein, je pense, tout comprendre.
Il y a des livres qui existent d'ailleurs, des ouvrages qui existent par rapport à ça.
Et vous avez eu un téléphone aujourd'hui qui peut être aussi un petit peu ramené à cette thématique. C'est une personne qui s'inquiétait du nombre de graines qu'on trouve sur les plantes en ce moment.
Exactement. Alors ce monsieur a toujours d'ailleurs un frêne pleureur avec une branche qui s'est cassée. Et il me demandait un petit peu quoi faire parce que cette branche a énormément de graines. Et il savait pas trop quoi faire. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus, année après année, quand on a ces étés très chauds et très secs, quelques essences comme les charmilles, comme les érables, comme certains chênes, comme certains frênes justement, qui font énormément de graines. Et c'est vrai que c'est une des magies et des choses assez incroyables que la nature nous offre, c'est en fait de se dire qu'ils sont simplement dans un instinct de survie. Tout simplement en se disant mais on va pas avoir assez d'eau pour vivre toute l'année, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va entre guillemets assurer notre descendance en faisant un maximum de fruits, en espérant qu'ils puissent disséminer par différentes manières. Et c'est vrai que c'est très intéressant. Alors ça a un côté très positif de se dire ben il fait des graines, donc effectivement il y aura des nouveaux qui vont arriver tout soudain. Ça peut être un petit peu embêtant parce que souvent ça se ressème dans des endroits qui sont pas forcément toujours voulus et espérés, donc des fois ça peut demander du travail, un peu d'huile de coude pour enlever tous ces rejets qui pourraient pousser. Mais c'est vrai que c'est un petit peu, je trouve, enfin quelque chose d'assez incroyable de se dire que la nature a l'intelligence et c'est là qu'on voit que nous, entre guillemets, on apprend tout de la nature, on a tout à apprendre de la nature par rapport à son fonctionnement et puis de se dire, ben voilà, qu'elle a l'intelligence de se dire on va faire des graines, on va faire des fruits pour survivre quoi qu'il arrive si tout d'un coup on n'a pas assez de ressources. Je trouve que c'est assez génial. Alors bon, on peut ramasser certaines graines. Hein. Maintenant, c'est vrai que là, en l'occurrence, j'expliquais au monsieur que lui, il a un frêne pleureur, donc c'est une forme vraiment spéciale qu'on ne trouve pas comme ça dans la nature. Quand on voit des frênes en forêt, c'est des grands arbres. Là, c'est une variété qui a été greffée. Donc c'est sûr qu'en ramassant ces graines-là et en les ressemant, ça va pas redonner une variété pleureur, mais ça va redonner la variété en fait de base qui est le commun, quoi. Voilà.
Merci beaucoup Cédric Baudin, Nicolas Feiss, France Péria, notre invité ce matin, et puis Anne Parvis et Saskia Muskens d'avoir fait cette émission ce matin. Je vous souhaite un bon dimanche.
Merci.
Merci.
À très bientôt. Et je rappelle à toutes les personnes qui auraient des questions vétérinaires que vous pouvez nous les poser à tout moment. On garde ces questions de côté puis on les propose à nos vétérinaires quand on se rencontre. Et puis je voudrais vous dire aussi qu'il y aura une visite guidée du jardin botanique de Fribourg avec monsieur Gaël Rey sur le thème fourmis formidables. Puisqu'on parlait de télépathie, je crois que les fourmis sont très douées pour ça. Et ce sera donc le mercredi 4 juin de 18h à 19h30.
Infotrafic RTS.
Ça par rapport au...
La circulation s'écoule sans difficulté sur les principaux axes de Suisse romande.
Infotrafic RTS en collaboration avec les CFF et le TCS. L'heure avec RTS Première.
Il est 9h, on parle des chiens après les infos dans les échos de vacarme.